Bon, Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Nous allons donc reprendre le neuvième et terminer le neuvième commandement de Dieu, celui qui parle essentiellement de l'amour humain. Nous avons vu la dernière fois que la splendeur de l'amour humain, qui est fait en réalité pour durer. Aucun amoureux disait « je t'aime pour 24 heures ou pour 24 ans ». Lorsqu'on aime, c'est pour toujours, puisqu'il s'agit de se donner entièrement à la vie et à la destinée d'un autre. Je me rappelle avoir lu dans le métro une réclame qui disait « Faut-il signer un contrat de concubinage ?» Mais que signifie un contrat de concubinage ? C'est la location d'un corps, la fourniture réciproque de services, qu'il s'agisse du confort ou d'un plaisir de la cuisine au lit. Qu'est-ce qu'un contrat ? Le don d'une personne à une autre n'est pas un contrat. C'est quelque chose de bien supérieur. C'est là où on voit la subversion freudienne. Il a manqué un chantre inspiré de la flamboyante union charnelle de l'homme et de la femme au siècle dernier, si bien que on en est venu à confondre amour et sexe. Dès lors, l'amour chassé de son niveau spirituel d'origine, c'est Adam qui avait dit « tel est l'os de mes os et la chair de ma chair », l'amour s'est confondu avec une activité dont le seul but est le plaisir. Il suffit pourtant d'être en contact avec un véritable amour pour constater que cela va bien au-delà. Je pense entre autres au concerto piano de Schumann, je pense à bien de poètes, à bien de peintures qui disent que l'aspiration de se donner entièrement à un être qui se donne entièrement à vous va bien au-delà de la recherche simple d'un plaisir ou d'un confort. La personne aimée n'est pas son bien, c'est nous qui devenons son bien. L'activité sexuelle qui accompagne normalement le mariage dont elle est un temps fort, comme on dit actuellement, n'est pas suffisante ni même indispensable pour un amour véritable. L'amour conjugal qui liait la Sainte Vierge et Saint Joseph était sans doute le plus profond et le plus parfait que la terre ait connu et connaîtra. Vu sous cet angle, la fidélité conjugale va de soi. Revenir sur son choix, c'est se renier, s'aliéner pour un caprice passager. Misérable mensonge. Ce qui ne veut pas dire que d'ailleurs chacun ne soit pas tenté de temps en temps, mais ça fait partie de la nature, de la faiblesse de la nature humaine. À l'opposé du contrat d'épiderme auquel un humoriste prétendait réduire le mariage, l'union de l'homme et de la femme est la source d'une réalité entièrement nouvelle. L'homme quittera son père et sa mère, c'est-à-dire ce qu'il a de plus fondamental, ce retour aux origines. Le divorce est la cause de la dureté de votre cœur. Cette exigence d'un mariage indissoluble est unique dans toutes les religions et coutumes terrestres pour lesquelles le mariage est avant tout considéré en vue d'assurer la perpétuation de la tribu, ce qui rend licite la réputation pour stérilité. On serait tenté de faire remarquer que nous sommes descendus encore plus bas, car actuellement certains demanderaient plutôt le divorce pour fécondité. Un paradoxe. L'amour chrétien va plus loin et plus profond. Pour lui, l'amour de l'homme et de la femme a une valeur telle que rien ne peut dissoudre cette communauté scellée par Dieu. Quant à l'acte conjugal, il acquiert une dimension sacrée, puisque signe de cette communauté. Le mariage est le signe, l'image de l'union du Christ et de l'Église dans laquelle l'épouse devient entièrement relative à l'époux. Le Christ, lequel l'époux se donne pleinement à lui, en sanctifiant l'épouse pour la rendre digne de lui. Nous sommes ainsi sanctifiés par un amour nuptial, notion qui donne le vertige pour peu qu'on l'approfondisse. Dès ici-bas, cela signifie que dans nos pauvres d'amours humaines, l'épouse et l'époux n'existent que l'un pour l'autre, étant prêts à l'abandon complet, fût-ce de leur vie. Qui donc oserait encore parler de conventions mondaines, de structures sociologiques ou autres âneries d'aveugles volontaires ? La vérité est que peu d'hommes sont capables de cet amour-là, et préfèrent s'en détourner en ricanant, signe d'impuissance, et retourner à leur fumier pornographique. Ces pauvres gens sont réduits à n'aimer qu'eux-mêmes, dans une recherche de plaisir sans lendemain, car les sensations s'éprouvent avec l'habitude et avec l'âge. Qui leur fera retrouver ce regard de Dieu qui fit l'humanité homme et femme ? Le mariage constitue, au moins partiellement, ce chef-d'œuvre de la création, un amour vécu dans la pérennité d'un don réciproque où la femme s'en remet à l'homme prêt à donner sa vie pour elle. Il reste que le sommet de l'amour reste celui qui nous lie à Dieu, dont nos pauvres amours humaines ne sont qu'un reflet, au mieux une image. Pour certains lecteurs de la Bible, l'un des livres les plus troublants est certainement le Cantique des Cantiques. On peut en citer quelques versets. « Pendant que le roi repose sur son divan, mon parfum exhale. Il m'est un cachet de myrrhe, mon bien-aimé, qui repose sur mes seins. » Plus loin. « Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon âme chérit. Je dormais, mais mon cœur veillait. Voilà la voix de mon bien-aimé. Il frappe. J'ai ôté ma robe. Comment la remettrai-je? J'ai baigné mes pieds. Pourquoi les salir à nouveau ?» Plus loin. « Je suis à mon aimé l'objet de ses désirs. Viens donc, ô bien-aimé, sortons dans la campagne, passons la nuit dans les vergers. » Il faudrait citer tout le poème. Il s'agit d'un poème inspiré, c'est-à-dire que Dieu en est l'auteur principal. L'auteur au sens humain n'en étant que le rédacteur. Il faut donc admettre, à la suite des grands mystiques, dont saint Jean de la Croix est le docteur et le patron aux yeux de l'Église, il est patron des poètes de surcroît, que ces vers brûlant d'un amour a priori sensuel sont le modèle du dialogue entre l'âme et Dieu, qui nous aime à un tel point que, c'est une analogie bien imparfaite, il en deviendrait presque aussi timide qu'un amoureux terrestre. Voici un mystère qui serait terrifiant si ce n'était un mystère d'amour. L'âme se donnant à Dieu dans un baiser total, analogue au don conjugal, Dieu acceptant de nous fondre en lui. Quelle folie que cet adultère qui consiste à lui préférer les biens de ce monde, comme le disaient les prophètes de l'Ancien Testament. En conclusion, on peut faire remarquer que, créatures spirituelles, les anges nous sont bien supérieurs dans le domaine de l'intelligence, même les anges déchus, de la volonté, de la capacité d'aimer. Seule la Vierge Marie, de par ses privilèges, est supérieure aux anges tout en étant de notre race. Plus près de Dieu que nous dans leur nature spirituelle, il manque toutefois aux anges un attribut essentiel de Dieu, la fécondité. Ces grands aristocrates, qui sont un peu comme des grands frères, restent seuls, n'ayant nul besoin de vie en société pour réaliser leur mission. C'est aux hommes, esprits liés à la matière, laquelle est divisible à l'infini, que Dieu a donné le privilège de lui être semblable dans la fécondité. Cela explique la rage sans limite de Satan contre la fécondité humaine, en particulier contre celle de la femme, voire l'avortement, la contraception, etc. Notre époque est le témoin privilégié, pourrait-on dire, de cette rage contre la femme qui cherche à avilir et anéantir dans ce cas-là de plus sacré sa relation avec enfant. Pour Satan, la maternité ne doit plus être qu'un accident occasionnel, l'essentiel pour la femme étant sa réalisation comme travailleuse, hélas, cela revient dit souvent sa réalisation comme bête à plaisir. Il serait trop long de mentionner tout ce qui concourt à mutiler la femme dans sa noblesse de mère et d'épouse. La séparation du plaisir et de la maternité en est le signe le plus tangible, ainsi que la glorification de la femme hors du foyer. Je ne dis pas que le travail extérieur soit un péché ou une malédiction, mais simplement que ce n'est pas là que la dignité spécifique de la femme se réalise. Quant à la fécondité spirituelle, il n'est que de mentionner la dégradation actuelle de l'enseignement, même dans bien des cas de l'enseignement du catéchisme, où on privilégie l'expérience toujours éphémère, oubliant que le Christ a dit « Allez enseigner toutes les nations ». Mère et médiatrice par nature, la femme est pourtant particulièrement douée, pourrait-on dire, pour la fécondité, même cloîtrée dans un couvent. Il est symptomatique que l'Église ait donné comme protectrice aux missions une religieuse cloîtrée, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le 9e commandement débute par la fidélité et débouche sur la fécondité de l'amour. En ce sens, il s'applique aussi bien aux âmes consacrées. Le psaume 112 dit « La femme demeurait stérile, il l'a fait en sa maison l'heureuse mère de plusieurs enfants ». Il se pourrait bien que ce 9e commandement se place juste après les deux premiers dans l'ordre d'importance. Sachons nous montrer dignes de telle vocation. Je dis tout cela l'avant-veille du 15 août, qui nous montre la glorification ultime de la Sainte Vierge Marie, qui a su réunir en elle la gloire de la virginité et la gloire de la maternité, qui est reine des anges et qui est vraiment symbole de la femme, qui pourra sauver toute l'humanité, pourvu qu'elle cesse enfin de donner libre cours à ses stupidités. Je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour le 10e commandement de Dieu.